L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous nous retrouvons pour aborder un thème qui est très important, notamment pour les jeunes qui se préparent au mariage ou qui se posent la question du mariage. C'est la question donc des vocations et de la préparation à ce mariage.
Voilà, avec une insistance ce matin, enfin aujourd'hui, sur les fiançailles et la période des fiançailles. Alors, même si c'est un mot désuet, c'est un très très beau mot qui est utilisé abondamment dans la Bible.
Voilà, alors on retrouve pour illustrer cette étape si particulière des fiançailles qui prépare le mariage, ce texte dans Osée.
Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai dans la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur.
Les fiançailles, c'est une expérience si forte, c'est une période si unique, intime, jubilatoire de l'amour, où nous passons d'un état simplement amoureux à un projet de vie et un choix de vie d'un homme et d'une femme qui se choisissent l'un l'autre, et qui les conduisent donc à un moment à dire « Je t'aime, j'ai décidé de t'aimer, je te choisis, je choisis de n'aimer que toi ». Voilà, c'est passé du maintenant amoureux au toujours de l'amour. C'est une période qui est extraordinaire, mais qui est hyper importante, qui est une période extrêmement dense.
Voilà, extrêmement intense. On va retrouver aussi cette expérience amoureuse ou mystique, traduite souvent par exemple dans le Cantique des Cantiques, où les deux fiancés sont tellement tendus l'un vers l'autre. Je suis à mon bien-aimé m'attend et je le cherche, et vers lui se porte mon désir, etc. Tout est toujours dans une sorte de tension extrêmement forte qui est le propre des fiançailles.
Voilà, cependant, on est aujourd'hui dans ça c'est tout le sens, vraiment très riche, extraordinaire, fabuleux, dilatant, etc. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte aujourd'hui social très fragilisé au plan conjugal, sexuel, affectif, marital. Et un accompagnement est vraiment nécessaire pour les futurs conjoints. De la même manière, d'ailleurs, que pour la vocation au célibat consacré, il est important de se préparer, c'est toute l'action du noviciat, des séminaires, etc. Et bien pour les mariés, effectivement, il faut aussi tout un temps de préparation.
Oui, puis il y a une situation qui est suffisamment douloureuse dans toutes ces ruptures d'alliance qui fait que beaucoup sont envahis par le doute, par la crainte, par l'angoisse de ne pas réussir à être fidèles à l'état de vie qu'ils choisissent ou à la personne qu'ils vont choisir. Et donc, tout ça fait qu'il y a une difficulté vraiment importante aujourd'hui à prendre une décision, et notamment souvent pour les garçons. Comment être libre et être sûr de la décision que je vais prendre?
Voilà, donc cette fiançaille, nous faisons souvent le parallèle que les fiançailles, c'est finalement quasiment un noviciat conjugal en vue du sacrement de mariage. Jean-Paul II a peut-être montré, comme rarement un pape l'a fait, combien le sacrement de mariage est une vocation à part entière. Et bien à ce moment-là, si jamais c'est une vocation aussi importante, alors à ce moment-là, il faut y donner des moyens très importants. Et c'est vrai que par rapport, je dirais, au noviciat monastique, au religieux, ou par rapport au séminaire, c'est vrai qu'il y a une très très grande différence par rapport à ce que propose aujourd'hui l'Église. Et donc, il faut, et l'Église d'ailleurs s'y emploie, pour développer vraiment des outils pour accompagner dans ce discernement et former à ce discernement, pour discerner l'amour, pour discerner l'engagement, pour discerner tout ce que recouvre cette vie de mariés qui soient conformes à l'Évangile.
D'ailleurs, si on peut faire une comparaison, comme la tempête sur l'amour conjugal est très forte en ce moment, Il faut que la maison tienne bien et il faut qu'elle soit ancrée sur le roc, mais aussi que les fondations soient profondes. Et les fondations, ce sont aussi ces années de fiançailles, ces mois, ces semaines qui précèdent l'engagement, où nous allons creuser fort pour savoir sur quoi nous bâtissons notre maison et quelles sont les fondations. Et les fondations, elles sont vraiment à poser de façon très sérieuse pour que l'on soit sûr d'aller jusqu'à, la fin de notre vie.
Voilà, et là, la première question en tant que fiançailles en vue du sacrement de mariage, le Concile Vatican II est très clair et le rituel romain qui s'y réfère est très clair. Il présuppose la pierre d'angle de la foi et d'une vie conforme à l'Évangile et à la confession de foi, puisque dit le Concile Vatican II, le sacrement suppose et requiert la foi de ceux qui le reçoivent. Voilà. Et puis après, c'est toute une dilatation à ce moment-là des différentes pierres angulaires de ce noviciat conjugal. Maud.
Voilà, alors une des premières, pierres qui vont, vous pourrez dire plutôt une des premières fondations, un pilier de cette maison, c'est le partage. Il est indispensable que les futurs conjoints, les fiancés, prennent le temps d'un partage profond.
En vérité,
voilà, sur son histoire, sur son cheminement, sur ses aspirations. Ne pas laisser des parts d'ombre sur des choses qui, on passe dessus parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord, mais en attendant, il faut aller creuser, il faut aller chercher.
Et puis, autre pierre d'angle, c'est un ressourcement commun dans l'amour de Dieu. Si nous croyons en Christ, nous savons que c'est lui qui est notre source, que c'est auprès de lui que nous devons ressourcer notre amour et puiser notre amour pour toute notre vie. Donc dans la prière, dans la parole de Dieu, dans l'Eucharistie, dans l'adoration, nous avons vraiment à puiser cet amour de Dieu pour que nous habitions dès le début à puiser en lui notre amour et la source de notre amour.
Nous avons besoin aussi de découvrir dans cette période de fiançailles toute la richesse du sacrement de mariage, tout le sens de ce que nous sommes en train de vivre. Nous allons poser un acte qui est sans doute le plus important de notre vie. C'est le moment de savoir comment travailler à la communication, à la différence de l'homme et de la femme, au sens et au contenu du sacrement de mariage, à ce à quoi nous sommes appelés dans l'Église. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il faut aussi prendre le temps d'une certaine formation. Quand on se prépare à entrer dans un métier, on s'y prépare avec des années d'études. Et quand on veut rentrer dans l'état de vie du mariage, il faut aussi quand même, entre guillemets, se renseigner un peu sur la question.
De la même manière, les célibataires consacrés ou ordonnés sont formés spirituellement, théologiquement, pastoralement, etc., psychologiquement. Il en va de même pour les conjoints. Et puis nous avons également, autre pierre angulaire, à découvrir et à expérimenter dès le début dans nos fiançailles, la miséricorde, parce que nous sommes tous pécheurs, et l'un et l'autre, avec nos pauvretés, nos habitudes, etc. Et nous avons à faire l'expérience de cette miséricorde. Et pour cela, l'accompagnement
est indispensable, oui.
Est important dès le début, dès les fiançailles.
Voilà, parce que quand on veut discerner un choix de vie, c'est très important qu'il y ait une tierce personne qui puisse aussi nous donner un retour sur notre façon de le vivre et sur ce que nous sommes en train de poser comme jalon pour progresser vers une vie conjugale. Donc l'accompagnement de quelqu'un d'aîné dans la foi ou d'un couple plus âgé, plus mûr, d'un prêtre, d'un diacre, peu importe, mais en tout cas il faut rentrer aussi dans un cheminement où, grâce à cette richesse de l'Église, l'expérience des uns bénéficie aux autres et ça circule comme ça dans l'Église et une certaine sagesse, un certain discernement peut se transmettre grâce à cette filiation qui existe dans l'Église.
Et plus largement, toute cette construction, cette vie des fiançailles doit se vivre à la lumière de l'Esprit-Saint et dans l'Esprit-Saint pour pouvoir lire les fruits de l'Esprit, justement les fruits de l'Esprit qui vont nous aider à discerner. Est-ce que quand on a posé tel acte, quand on a parlé de ceci ou de cela, etc., est-ce que la paix et la joie habitent nos cœurs, au contraire le combat, voilà, et c'est au regard des fruits de l'Esprit qui habitent mon cœur, son cœur, que nous allons pouvoir discerner. Et notamment, sur un point très important, Maud, c'est la question de l'affectivité, de la sexualité, si on peut dire, pendant les fiançailles, où nous avons déjà beaucoup développé la question du sens de la sexualité, mais donc les fiancés ont à préparer, entre guillemets, l'exercice de la sexualité et le don d'une seule chair qu'ils vont se faire l'un à l'autre lors du mariage.
Voilà, donc il y a tout un cheminement, si je puis dire, au niveau de l'affectivité, au niveau de la tendresse, mais qui doit être parfaitement en harmonie avec ce que vit le couple, ne pas poser des gestes qui vont plus loin que ce à quoi le couple en formation est en train de vivre, ce qu'il est en train de vivre, que ça corresponde, qu'il y ait une harmonie. Donc le corps engage ce qui est en train de se vivre, et si la sexualité est réservée, je dirais l'acte sexuel est réservé au mariage en tant que tel, et bien je pense que c'est important quand même de prendre quelques secondes pour expliquer pourquoi, Alex, dans le sens de l'Église.
Oui, absolument. C'est tout le sens dont a parlé Jean-Paul II, c'est que la sexualité sur une seule chair est vraiment le signe de le don total de l'un à l'autre, donc du mariage, et que la sexualité est la liturgie propre des époux. Est-ce qu'un séminariste va dire la messe avant d'être ordonné? Eh bien non. De même, un couple qui va s'unir dans le sacrement de mariage ne va pas s'unir avant vivre une seule chair pour célébrer. Que voudrait dire cette liturgie qui doit en plus pouvoir être ouverte sur la vie? Et c'est pour cela, alors on est bien conscient bien sûr de la situation aujourd'hui, et qu'effectivement des garçons et des filles qui se préparent au mariage peuvent déjà avoir vécu une seule chair. Mais combien nous connaissons de couples qui ont vécu cette situation, mais qui justement dans le cadre de la préparation au mariage vont revivre un temps de continence avant justement le mariage, pour que vraiment se préparer leur cœur, préparer leur vie, pour revivre vraiment le sens de cette sexualité. Et en plus ce combat, parce que c'est un combat, parce que l'un et l'autre forcément si on s'aime, on se désire profondément, et bien ce combat, c'est un combat qu'ils mènent pour leur vie entière, le combat de la fidélité. Combien nous nous sommes rendus compte que nombre de couples qui avaient vécu leur fiançailles et avaient respecté, essayé de respecter vraiment cette continence avant le mariage, finalement avaient mené un combat pour leur fidélité pour les années qui allaient venir après.
Voilà, je pense qu'on termine sur cette idée du combat, parce que justement, il faut sortir de cette image un peu édulcorée d'une fiançaille, de fiançailles fleur bleue. Les fiançailles, c'est un temps de combat, un temps de discernement, donc à la fois avec un aspect prophétique et à la fois un aspect drôlement rugueux.
On se retrouve dans un instant. Nous revoilà pour continuer cette émission sur les fiançailles, et nous allons aborder, Maud, la préparation au mariage, mais d'abord finir sur ces fiançailles, le temps des fiançailles, sa grâce propre qui est un temps absolument unique.
Voilà, c'est un temps aussi où on a une sorte de regard prophétique sur l'autre. On a aussi une docilité à l'Esprit Saint, parce que c'est tellement intense que on ressent à l'intérieur de nous-mêmes tellement de choses. Il y a une sorte d'ébullition, si je puis dire, qui permet aussi de discerner finalement quel est l'appel conjugal que le Seigneur pose sur notre couple, sur notre futur couple, s'il y en a un.
Voilà, et c'est vrai combien de couples nous avons accompagnés, qui nous avons rencontrés, et finalement pendant les fiançailles, il y a comme un peu une vision, je puis dire, ou un discernement spirituel de quelle est notre vocation, de quel est le nom que le Seigneur veut écrire sur notre couple. C'est vraiment un appel particulier que l'un ou l'autre soit.
Oui, je pense que chaque couple a une vocation spécifique aussi dans l'Église et dans le monde. Les uns vont avoir, mettons, un appel à être au service du plus pauvre, les autres un appel à accueillir beaucoup d'enfants et être une sorte de générosité du don de la vie. D'autres vont se sortir un appel plus à s'investir comme chrétien dans le monde du travail ou dans le monde de la politique ou dans le monde de la culture. Enfin, chacun a une tonalité spécifique, et il est important que ces fiançailles soit le temps pour écouter à quoi l'Esprit Saint nous appelle en tant que couple.
C'est pour ça que les fiançailles demandent du temps demande du temps, ça peut pas être précipité, il faut à un moment prendre du temps, et c'est pour ça aussi que l'importance de la respiration, de ne pas vivre ensemble, comme on vit ensemble et on se retrouve tous les soirs dans le même lit, c'est évident qu'à un moment on a moins le recul que justement ce temps d'apprivoisement, on passe de la vie de un à la vie de deux. Et ça a besoin de ce temps des fiançailles, qui est un camp de construction, et où aussi on quitte son père et sa mère. C'est fondamental. Combien de couples, finalement, sont en échec parce que on n'a pas quitté son père et sa mère. C'est pas, même on peut ne pas avoir quitté son père et sa mère, même à 10 000 kilomètres, parce que on n'a pas choisi véritablement son époux, on n'a pas quitté son papa et sa maman.
Voilà, on est en train, en fait, dans les fiançailles, de recevoir l'appel à une nouvelle identité ecclésiale, une petite église qu'on va former. Et donc, nous quittons nos églises mères, qui sont celles de nos familles respectives, si nous en avons, peut-être que nous n'en avons pas. Mais en tout cas, nous fondons quelque chose de spécifique,
d'unique.
Et sur lequel il faut prendre le temps d'ancrer, je dirais, de mettre son...
Le curseur, la boussole.
La boussole, voilà, pour choisir son cap et savoir que c'est vers là que le Seigneur nous appelle.
Et c'est là où il faut rappeler que les époux sont unis par un sacrement, alors que les parents et les enfants ne sont pas unis par un sacrement.
Voilà.
Et donc, d'où l'importance de cette préparation. Et donc, bien sûr, quand on parle fiançailles, on parle préparation au mariage, on parle préparation de la célébration. Et je pense que les fiancés qui nous écoutent, ont forcément les prêtres qui vont les marier, vont leur expliquer le sens de la liturgie. Mais Maud, nous voulions ici insister sur la nouveauté qu'a apporté Jean-Paul II dans sa relecture du mariage. Cela s'est traduit, comme il a enrichi beaucoup la théologie de l'Église sur le sens et la vocation du mariage, il a voulu que le rituel et donc la liturgie du mariage évolue sur différents points. Et là, chose importante, il y a deux grands points finalement qu'on voudrait souligner avec vous. Et le premier point concerne le dialogue qui précède l'échange des consentements au travers des différentes formules. Voilà, afin que, au travers de ces formules, les époux prennent conscience plus clairement du sens et les implications de leur engagement mutuel.
Voilà, ils se promettent par exemple amour et respect pour toute leur vie. C'est pas simplement de la fidélité, c'est jusqu'au bout de leur vie, amour et respect.
Voilà, et les conjoints précisent qu'ils s'engagent l'un vis-à-vis de l'autre, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et la maladie. Voilà, donc certains disent, tant que ça ira bien, on restera ensemble. Voilà, donc à un moment, certains disent, la fidélité pour toujours, bien sûr. Oui. Mais après, il faut rentrer davantage dans le détail. De cet engagement, c'est effectivement dans la santé et dans la maladie. Quand on prépare des couples au mariage, je dis, si demain ton époux, ton épouse a un accident et est paralysé, ne peut plus faire l'amour, tu es toujours fidèle? Tu restes avec elle? Voilà. L'engagement, il doit être précis, il doit pouvoir se préciser au travers de différentes situations.
En sachant, bien sûr, que le
arriver.
Christ nous permettra d'aller jusque-là. Donc, bien sûr, nous sommes engagés dans le cadre du sacrement de mariage. Mais c'est la différence entre une relation conjugale où on est ensemble pour le meilleur jusqu'à ce qu'il y ait un pire, et puis celle où on s'engage aussi à demander la force du Christ pour rester quoi qu'il arrive.
Voilà. Et donc, les époux également sont invités à s'engager à éduquer leurs enfants sur l'évangile du Christ et la foi de l'Église. Donc, il y a non seulement ils s'engagent eux-mêmes, mais finalement, ils engagent le fruit de leur une seule chair, qui est l'enfant.
Ils s'engagent aussi à prendre leur part à l'édification de l'Église, donc à assumer leur mission de chrétien dans le monde et dans l'Église.
Voilà, c'est la formulation. Nous nous engageons à assumer ensemble notre mission de chrétien dans le monde. Voilà. Et donc, il est proposé de dire la profession de foi, le credo, afin de manifester que le mariage est bien célébré dans la foi de l'Église, que celle-ci est confessée et proclamée par les époux eux-mêmes. Voilà. Et donc c'est important, et le cardinal Ratzinger, préfaçant un livre justement sur la question du mariage, du divorce, etc., disait vraiment que la foi est inhérente au sacrement de mariage. Ah, bien sûr, il peut y avoir des degrés, entre guillemets, de foi et de cheminement différents selon les uns et les autres. Et c'est là où est à préciser le discernement de l'Église. Mais que la foi est vraiment fondamentale dans l'engagement.
Enfin, donc, voilà. Il y a un deuxième point aussi qui est très nouveau dans ce nouveau rituel et qui me semble très significatif, c'est que pendant la prière d'ouverture, le prêtre dit aux époux qu'ils vont consacrer leur amour et que le Christ qui a déjà consacré par le baptême
ses époux
va aussi transformer leur amour pour le consacrer.
Par cette consacrée. Donc c'est vraiment cette notion que l'alliance conjugale va être vraiment consacré par le Christ, et qu'il y a un désir de cette consécration par les époux, et que le Christ va consacrer leur amour. Et c'est vraiment important pour la réception des consentements. Le prêtre ou le diacre, s'il le souhaite, peut étendre la main en direction des époux, ou même poser sa main droite sur leur main jointe, signe très clair du concours opérant de l'Esprit Saint durant la formulation même des engagements des époux. Et là, c'est important que le rituel, ce n'est pas du tout neutre, c'est pas dans la liturgie, les gestes qui sont posés sont un signe visible d'une action invisible qui est demandée au Seigneur. Et donc, la formulation, l'évolution de la liturgie et des actes liturgiques du prêtre ou du diacre, illustre bien combien cet engagement s'accompagne d'une véritable consécration.
On voit ça aussi, Alex, sur justement le geste qui accompagne la bénédiction nuptiale, qui est tout à fait à la fin du rituel. Donc c'est une invocation au Père pour que l'Esprit Saint vienne donner aux époux sa force et sa grâce. Et bon, autrefois, si je puis dire, avant ce nouveau rituel, le prêtre ou le diacre tenait les mains ouvertes, levées. Maintenant, il met les mains au-dessus, étendues au-dessus des nouveaux époux, pour signifier vraiment qu'il y a consécration de leur amour en Christ.
Et il reprend, effectivement, comme le fait l'évêque pour la prière du sacrement de confirmation, ou des ordinants, ou le prêtre pour invoquer l'Esprit Saint sur le pain et le vin au cours de la prière eucharistique. Et donc, tout cela pour illustrer combien ces innovations, cette évolution du rituel liturgique, donne évidemment une plus grande importance à la bénédiction nuptiale dans la liturgie et une dimension nouvelle d'ordre consécratoire, charismatique et opératoire du sacrement de mariage. Voilà, c'est très important de montrer combien les époux sont vraiment consacrés dans le Seigneur, dans le Christ et par l'opération du Saint-Esprit.
Enfin, il y a aussi une nouvelle différence, c'est que avant on utilisait cette fameuse formule un tel et un tel échangeront leur consentement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ils échangent leur consentement toujours, mais devant l'Église, c'est-à-dire que l'Église atteste par le ministère ordonné, donc un prêtre ou un diacre, et reçoit ce consentement, et à ce moment-là, il y a consécration de leur amour. Donc l'Église s'implique dans la réponse des époux à l'appel du Christ, en reconnaissant que ce ne sont pas simplement les époux qui se donnent le sacrement de mariage, il est donné dans l'engagement devant l'Église, reconnu par son ministère.
Comme dans la transmission justement apostolique, c'est vraiment, on ne se donne pas simplement une vocation, mais aussi on la reçoit. Alors les époux, bien sûr, leur engagement est absolument essentiel, fondamental, premier. Mais il est reçu et il n'est possible comme sacrement que parce que l'Église est présente, l'Église confirme et l'Église consacre dans l'Esprit Saint. Et d'où toute l'importance que Jean-Paul II donnait à cette prière de bénédiction, à cette invocation à l'Esprit Saint, où il parlait de l'épiclèse qui est invoquée sur les époux lors de la célébration du sacrement de mariage.
Donc rappelons, Alex, que l'épiclèse, c'est cette grande prière d'invocation à l'Esprit que l'Église fait justement avant la liturgie eucharistique pour qu'il y ait justement la présence de l'Esprit Saint sur ses dons. Et de la même façon, l'Église supplie qu'il y ait la présence de l'Esprit Saint sur ses nouveaux époux.
C'est une bénédiction, c'est une immense richesse d'être comme cela invité par l'Église et par le Seigneur à être consacrés dans son Esprit Saint, car cela dilate nos cœurs, cela nous introduit dans une dimension et dans une richesse phénoménale, un trésor que les non-chrétiens ne connaissent pas, une dilatation du cœur qui est une bénédiction et un trésor immense, Maud. Et
voilà.
Donc, c'est avec ces paroles que nous prions pour vous, que nous vous quittons et que nous vous disons
à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
The extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit.
Retrouvez Alex et Maud Loriot-Prévost dans leur livre en 3 volumes, L'Évangile pour le couple, aux éditions du Jubilé. May the grace